France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Ce drame sur l'île d'Oléron, un automobiliste renverse volontairement des piétons et des cyclistes ce matin. Il y a plusieurs blessés graves. L'homme a crié « Allah Akbar », mais ses motivations restent floues. Le parquet antiterroriste à ce stade n'est pas saisi. Témoignage et explication dans un instant. À suivre encore, comment la France et l'Iran se sont mis d'accord. Jacques Paris et Cécile Kohler sont sortis de leur prison, désormais à l'ambassade de France de Téhéran. Nous verrons quels sont les dessous de ce deal. L'ouverture de la boutique Chine ce matin au BHV à Paris. Bonjour Alexis Morel.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes sur place et il y a beaucoup de monde autour de vous.
Oui, plusieurs centaines de clients dans la file d'attente. Les premiers arrivés découvrent à l'instant l'espace Chine au 6e étage du grand magasin. Pendant qu'en bas, dans la rue, les opposants à l'ultra fast fashion se mobilisent.
A tout de suite pour votre reportage. Nous verrons pourquoi l'allaitement maternel diminue le risque de cancer du sein. Pourquoi Danone va fermer le site historique de Blédina. Ça se passe à Villefranche-sur-Saône. Et pourquoi la console Switch 2, bonjour Olivier Bénis,
bonjour,
se vend autant dans le monde.
10 millions d'exemplaires vendus en 4 mois. Si ça continue comme ça à ce rythme, eh bien ce sera la console la plus vendue de l'histoire.
A tout de suite pour vos précisions. À partir de 13h30, la sécurité des femmes dans nos transports en commun. Une sur deux déclare ne pas s'y sentir en sécurité. Les élus locaux débattent des solutions en ce moment à Orléans et deux d'entre eux seront avec nous. J'attends vos témoignages. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. Novembre, le mois sans tabac. Et pour la cigarette, c'est sûr, ça n'était pas mieux avant, nous dira Patrice Trappier du 1 Hebdo. Juste avant 14h, c'est une chanson avec la comédienne Florence Darel. Et sans oublier, évidemment, les sorties cinéma de ce mercredi. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Scène d'effroi ce matin sur l'île d'Oléron. Un automobiliste circule entre deux communes de l'île et sur ce trajet, il percute volontairement des cyclistes, des piétons. Le bilan, 10 personnes fauchées, dont 4 sont grièvement blessées et cet homme a été interpellé. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
On verra quel est son profil, quelles sont ses motivations avec vous dans un instant. D'abord ce témoignage, il s'agit de Thibaut Brekoff, c'est le maire de la commune de Dolus-d'Oléron. Il y a des victimes dans sa commune.
C'est un choc, hein. on n'y croit pas, les premières secondes on n'y croit pas et c'est très brutal, mais voilà. Sur les communes de Saint-Pierre et de Dolus, un chauffard fou assez vif, volontairement il a essayé et il a réussi à toucher des personnes piétons ou cyclistes qui croisaient sa route et donc il est parti en fuite après sur Saint-Pierre. Il a été intercepté par les services de gendarmerie, donc il y a des personnes qui sont dans des états plus graves et d'autres plus légers. Là, à ma connaissance, il n'y a pas de mort et je dirais déjà ça c'est une première, j'ai envie de dire, bonne nouvelle, même si c'est très très grave là ce qui se passe. On ne comprend pas très bien encore la motivation de la personne qui a commis ces actes. Voilà, la salle omnisport de Dolus est transformée en cellule de crise. C'est donc là qu'on centralise l'ensemble des blessés et des personnes qui ont été touchées par l'événement.
Le maire de Dolus-d'Oléron au téléphone d'ici La Rochelle. J'ajoute que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, se rend sur place. Emmanuel Leclerc, vous êtes avec nous, spécialiste police justice de France Inter. Cet homme a donc crié « Allah Akbar » ce matin avant sa course folle. Pourquoi le parquet antiterroriste n'est-il pas saisi ?
Alors, ce que l'on sait, puisque le suspect a été arrêté par les gendarmes en usant de leur pistolet à impulsion électrique alors qu'il avait mis le feu à sa voiture, c'est qu'il est âgé de 35 ans. Il vit sur l'île d'Oléron à la Cotinière, commune de Saint-Pierre. Il a bien crié « Allah Akbar » lors de son interpellation, mais pour le procureur de La Rochelle, Arnaud Larez, le mobile religieux ou politique et donc potentiellement terroriste n'est pas encore confirmé. Mais autre piste étudiée, un motif d'ordre psychiatrique. Cet homme actuellement en garde à vue est connu pour des délits de droit commun, des vols, des délits routiers. Le maire de Saint-Pierre a également évoqué des problèmes d'addiction à l'alcool et aux stupéfiants. Le parquet national antiterroriste est en observation, hein, en attendant justement les premières conclusions des enquêteurs de la section de recherche de Poitiers et celle du procureur de La Rochelle, d'autant que le suspect n'est pas fiché au FSPRT, les personnes suivies pour radicalisation. Il faut savoir que sur les 8 dernières attaques à la voiture Bélier depuis un an, avant celle sur l'île d'Oléron, deux seulement étaient de nature terroriste, avec à chaque fois ce que l'on appelle des loups solitaires, selon les analyses de deux chercheurs australiens publiés récemment dans la revue The Conversation, en l'occurrence à Mannheim en Allemagne en mars dernier, à la Nouvelle-Orléans hein, le 1er janvier 2025. Les autres attaques étaient le fait de vengeance personnelle ou de crise de folie avec ou sans antécédents psychiatriques.
Merci Emmanuel Leclerc pour ces informations. C'est donc vers la piste d'un échange que l'on s'oriente entre la France et l'Iran. D'un côté, Jacques Paris et Cécile Kohler, qui ont quitté leur prison de Téhéran après 3 ans et demi de détention. Ils se trouvent actuellement à l'ambassade de France dans la capitale iranienne. Et de l'autre, une citoyenne iranienne, arrêtée en France en février dernier, accusée d'apologie du terrorisme, qui doit être jugée en janvier prochain et dont on a appris ce matin qu'elle se trouvait désormais à l'ambassade d'Iran à Paris. Pour comprendre les coulisses de ce deal, nous sommes avec Louise Baudet, rédaction internationale de Radio France. Bonjour Louise.
Bonjour Jérôme.
Ça ressemble à un échange de bons procédés.
Oui, concomitance frappante en tout cas entre le sort de Jacques Paris et Cécile Kohler et celui de Mahdieh Esfandiari, traductrice née en Iran, installée en France depuis 7 ans, arrêtée, vous l'avez dit, en février dernier pour apologie du terrorisme en attente de son procès mi-janvier et libérée sous contrôle judiciaire il y a 2 semaines. Elle se trouve en ce moment à l'ambassade iranienne à Paris. Voilà qui accrédite l'hypothèse d'un deal entre Paris et Téhéran. Deal que ni l'Elysée ni le Quai d'Orsay ne commentent, bien sûr. Officiellement, la France refuse toute négociation et la justice française est indépendante. Elle n'agit pas sur ordre. Mais on peut supposer qu'un procès avancé de quelques semaines et une expulsion rapide de Mahdieh Esfandiari accélérerait la libération de Jacques Paris et Cécile Kohler. Téhéran communique beaucoup sur le sort de cette Iranienne. Ce n'est évidemment pas un hasard. Alors quand les deux Français peuvent-ils espérer revenir en France? L'Elysée comme le ministère des Affaires étrangères se montrent très prudents. Rappelons qu'une autre Française détenue en Iran, la chercheuse Fariba Adelra, a dû attendre 7 mois entre sa sortie de prison et sa libération définitive en octobre 2023.
Louise, avant de vous redonner la parole, je voudrais qu'on écoute Marie-Brigitte Huette. Elle est à Nantes, la présidente du comité de soutien à Jacques Paris. C'est l'une de ses anciennes collègues. Joie pour elle, mais incertitude.
Bon, certes, ils sont sortis de prison. Il y a une grosse différence entre être en prison dans un milieu bon hostile et puis se retrouver à l'ambassade de France libre et entouré de gens bienveillants. Mais en même temps, on n'a pas de date de rapatriement. C'est pas fini. Les négociations, les discussions, c'est pas complètement réglé. Peut-être que ça va prendre quelques jours, c'est ce qu'on espère, mais ça peut prendre aussi plus longtemps. Donc, tant qu'ils sont pas là, à la maison, chez eux, avec leur famille et leurs amis, voilà, on est à la moitié du chemin. Quand est-ce qu'ils vont vraiment rentrer, quoi? C'est ça le truc.
L'émotion de Marie-Brigitte Huette au téléphone de Faustine Calmel. Louise Baudet, on entend aussi la prudence des proches qui, il y a quelques semaines, avaient reproché à la France sa nouvelle stratégie de fermeté avec l'Iran. Cette stratégie semble tout de même avoir payé?
Oui, une augmentation assumée de la pression diplomatique, médiatique depuis janvier dernier, en rupture avec la discrétion privilégiée jusque-là. Le sort des otages d'État devient très officiellement la première préoccupation de la France dans le dossier iranien. Pas un point presse du Quai d'Orsay, pas une interview du ministre Jean-Noël Barrot sans qu'il en soit fait mention. Et cette pression culmine en mai dernier avec une plainte déposée devant la Cour internationale de justice. Plainte très importante pour l'Iran qui tient à sa réputation internationale. Plainte retirée par la France le 25 septembre dernier au lendemain d'une entrevue à l'ONU entre Emmanuel Macron et son homologue iranien. Les deux dirigeants et leur ministre des Affaires étrangères se sont beaucoup parlé ces dernières semaines. Tous les canaux ont été gardés ouverts, assure un diplomate, malgré le soutien français à l'offensive israélienne lors de la guerre des 12 jours en juin dernier, malgré son rôle moteur dans le rétablissement des sanctions fin septembre. Emmanuel Macron, qui a eu de nouveau le président iranien Massoud Pezeshkian ce matin au téléphone, réclamant une libération pleine et entière le plus rapidement possible. Cela renforce l'hypothèse d'un deal, chacun mettant la pression sur l'autre partie. Cela valide aussi l'idée que ce mélange de pression et de discussion à payer.
Merci Louise Baudet pour ces explications. C'est le naufrage le plus grave survenu dans la Manche. 27 migrants morts, c'était en novembre 2021. Et bien des militaires de la Marine nationale qui coordonnent les secours en mer vont être jugés aux côtés de passeurs. Ces militaires sont suspectés de non-assistance à personne en danger. Ils demandaient à être jugés par un juge militaire, ce qu'a refusé la Cour de cassation. Et puis je vous ai parlé avant-hier de cet adolescent de 15 ans mis en examen en Moselle pour en avoir tué un autre de 17 ans sur la commune de Neufchef le week-end dernier. Eh bien, le parquet de Metz a précisé hier que la victime et son père avaient dans un premier temps poursuivi le jeune de 15 ans avant de le rouer de coups. Celui-ci a ensuite porté 2 coups de couteau.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Si Shein voulait assurer la publicité de l'ouverture de son premier magasin physique et pérenne au monde, c'est réussi. Une polémique mondiale sur la vente de poupées à caractère pédopornographique par la plateforme chinoise, et puis un débat franco-français sur la sauvegarde du petit commerce. Résultat, des caméras et du monde ce matin au BHV, tout près de l'hôtel de ville à Paris. Pour l'ouverture au public, vous êtes donc à l'intérieur, Alexis Morel, où il y a beaucoup de consommateurs pour, alors qu'il y a beaucoup de manifestants contre à l'extérieur.
Oui Jérôme, les premiers clients commencent à déambuler là dans ce vaste espace de 1200 mètres carrés au 6e étage du grand magasin. Qui a mis les petits plats dans les grands? DJ, musique assourdissante, vous l'entendez peut-être derrière moi. Des centaines de fans de la marque patientaient sur le trottoir depuis plusieurs heures pour certains d'entre eux, comme Atim et Shein au BHV. Lui, ça ne le choque pas, bien au contraire.
Le BHV, ça reste quand même un endroit normalement pour tout le monde. Ça doit être un endroit pour tout le monde. Ça serait bien aussi qu'ils changent un petit peu leur clientèle. Et que les gens aussi qui ne peuvent pas s'habiller chez les grandes marques et tout, bah, trouvent aussi leur confort. Et peut-être il y a des gens qui ne sont jamais venus au BHV, hein, parce qu'ils se disent que ce n'est pas dans notre budget. Mais peut-être avec Shein, bah, ils auront l'occasion de visiter le BHV. On ne sait jamais, peut-être acheter chez Shein et chez d'autres enseignes.
Mais vous le disiez Jérôme, deux mondes se côtoient ici. D'un côté, ces clients curieux et face à eux, dans la rue, des opposants au modèle Shein. Ils ont tous fait le déplacement, associations de protection de l'enfance après le scandale des poupées, élus locaux, militants écologistes aussi, comme Axel Gibert de France Nature Environnement.
Parce que c'est très grave ce qui se passe aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on banalise la marque d'ultra fast fashion en la mettant au sein d'une institution comme le BHV. Donc, on donne accès aux consommateurs et aux consommatrices des produits de mauvaise qualité, des produits qui sont toxiques, des produits qui sont dangereux, des produits qui sont mauvais pour la planète. C'est des produits qui sont portables entre 10 et 30 fois. Donc, au bout de 10 et 30 fois, le produit Shein, eh bien, il va être jeté.
Mais cette opposition n'a pas dissuadé le propriétaire du BHV, Frédéric Merlin, de faire le déplacement. Frédéric Merlin, venu, je cite, dire qu'il se porterait garant de la qualité des produits vendus ici.
Alexis Morel en direct avec les moyens techniques de Benjamin Troncin. Comme le BHV à Paris, c'est une institution à Villefranche-sur-Saône, Blédina, 140 ans d'histoire dans la capitale du Beaujolais. Eh bien, le groupe Danone va fermer l'usine dans deux ans. Le site qui fabrique des céréales pour les très jeunes enfants emploie encore plus de 200 personnes. Bonjour, plus de 100 personnes, pour que ce soit plus clair. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Quelles sont les raisons de cette fermeture?
Eh bien, les raisons, c'est une perte d'activité chronique depuis une dizaine d'années. Un taux de natalité en baisse, des ménages donc qui font moins d'enfants, des habitudes de consommation qui changent, avec des familles qui se tournent vers plus de naturalité, des produits plus sains. Voilà pour les raisons invoquées par Danone et que regrette au premier chef le directeur du site, Timothée Copéré, que j'ai pu joindre pour France Inter il y a quelques minutes.
C'est une décision qui est difficile pour l'ensemble des salariés, mais c'est une décision qui est nécessaire. Donc sur site, on n'est pas resté les bras croisés. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on investit fortement. On a investi plus de 134 millions sur le site. C'est 6 fois le budget annuel du site. Tout ça pour tenter de le moderniser et également le développer de nouveaux produits. Et malheureusement, le marché continue de se dégrader et encore plus fortement sur la dernière année.
Voilà, le site qui produit aujourd'hui à 25% pour la France, à 25% pour l'Europe et pour le reste, surtout pour l'Afrique où le marché requiert des prix bas. Quoi qu'il en soit, les 117 salariés seront tous accompagnés, promet Danone, qui entend en proposer un reclassement à chacun d'entre eux et principalement en région Auvergne-Rhône-Alpes, territoire stratégique pour le groupe où les solutions existent.
Et réaction en avant-première donc de Danone à votre micro, Maxime Debs, qui nous amène tout naturellement au résultat de cette étude sur l'allaitement maternel. Elle est signée de scientifiques australiens. Alors on savait que pour les femmes, allaiter son bébé diminuait le risque de cancer du sein. Phénomène jusqu'ici présent connu mais mal compris. Bonjour Juliette Gloria.
Bonjour Jérôme.
Ce qu'on apprend c'est pourquoi l'allaitement stimule les défenses immunitaires.
Oui, et pour le comprendre, les chercheurs ont étudié 3 groupes de souris. Un qui allaitait ses petits, un autre qui n'allaitait pas ses petits et un troisième qui n'a pas eu de petits. Résultat, les souris allaitantes présentaient beaucoup plus de lymphocytes que les autres. Les lymphocytes, c'est cellules clés de l'immunité capables de tuer les cellules cancéreuses. En fait, pour l'allaitement, les tissus du sein s'étaient modifiés. Toujours dans ce groupe de souris allaitantes, les scientifiques ont découvert également que si des tumeurs apparaissaient, elles étaient plus petites. Anne-Vincent Salomon est directrice de l'Institut des cancers des femmes à l'Institut Curie et elle souligne la nouveauté de ses travaux.
Là, ce qui est nouveau, c'est de montrer que le nombre de lymphocytes T qui sont protecteurs contre les cancers vont augmenter et rester jusque 30 ans après une grossesse. C'est dingue, c'est dingue. On a la preuve biologique, on comprend un peu mieux pourquoi la grossesse et l'allaitement protègent du risque de développer un cancer. Parce que si on a plus de cellules immunitaires dans le tissu du sein, on a plus de chances que ces cellules immunitaires fassent leur job correctement et débarrassent des cellules qui sont en train de se transformer le tissu du sein.
Et ce qui se passe chez les souris est confirmé par les prélèvements de tissus chez les femmes pré- ou post-ménopausées. Une découverte supplémentaire des vertus de l'allaitement. Et le cancer du sein qui touche toujours aujourd'hui une femme sur 8 en France.
Merci Juliette Gloria pour ces explications. Les pays du monde entier vont tenter à partir de demain au Brésil de se mettre d'accord pour limiter le réchauffement climatique. C'est la COP30 qui va se tenir pendant 3 semaines dans la ville de Belém. Mais avant de rejoindre le Brésil, les 27 pays de l'Union devaient se mettre d'accord pour défendre un objectif commun sur la réduction des gaz à effet de serre. Eh bien c'est fait. Bonjour Pierre Benazé.
Bonjour.
Vous êtes à Bruxelles pour Inter. Un accord donc, mais au prix de nombreux renoncements.
Oui, les 27 avaient imaginé terminer leur débat en fin d'après-midi hier. Finalement, ils se sont séparés au milieu de la nuit avant de reprendre à 9h ce mercredi, après avoir dû demander des consignes de compromis à leur capitale sur ces négociations très tendues. En fin de compte, ils se sont mis d'accord d'abord à l'horizon 2035 pour ce qu'on appelle des contributions nationales pour la COP, à savoir une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui se situera entre 66,5% et 72,5% de moins que le niveau de 1990. Cette fourchette assez large est décrite ce matin par plusieurs ministres européens comme la condition sine qua non pour arracher un accord à l'unanimité, unanimité indispensable pour la COP puisque les Européens y présentent en commun des contributions nationales. Mais c'est pas la seule décision prise ce matin, il y a aussi et surtout l'objectif de 2040 qui ne concerne que l'UE qui a été le plus dur à arracher. Les 27 ont adopté l'objectif que proposait la Commission, 90% de réduction, mais ils ont en quelque sorte adouci cette ambition en introduisant une flexibilité de 5 points. Ce sont des crédits carbone internationaux que les pays qui n'arrivent pas à atteindre l'objectif chez eux peuvent acheter en dehors de l'Union européenne en finançant des projets sur place.
Pierre Benazé, en direct de Bruxelles, Emmanuel Macron qui participe à cette COP est attendu dès cet après-midi au Brésil. Il se rendra ensuite au Mexique. Le Mexique, pays stupéfait depuis hier, par ce qui est arrivé à sa présidente, Claudia Sheinbaum, victime d'une agression sexuelle. Bonjour Myriam Roch-Massarin.
Bonjour.
Cette scène est à peine croyable. Elle se déroule en plein centre de Mexico.
Oui, et les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Il est midi environ, la présidente se rend à un rendez-vous au ministère de l'Éducation. Comme souvent, elle est à pied, elle s'arrête pour saluer les passants et accepte de prendre des photos avec eux. Un homme s'approche, il tente de prendre Claudia Sheinbaum dans ses bras, de l'embrasser dans le cou et lui touche la poitrine. Elle reste calme, sourire figé sur le visage. Un membre de l'équipe de sécurité finit par s'interposer. Une intervention trop tardive, dénoncée par plusieurs responsables politiques. Il demande un renforcement de la sécurité autour de la présidente, dont la garde rapprochée est réduite au minimum. C'est le cas depuis des années dans le pays pour économiser les deniers publics. Pourtant, au Mexique, les élus sont des cibles. Il y a 3 jours, le maire d'une grande ville de l'Ouest a été assassiné. L'épisode met également en lumière la réalité des violences sexistes. Malheureusement, aucune femme n'est à l'abri de subir du harcèlement sexuel dans notre pays. Déclaration du ministère mexicain des droits des femmes. L'homme a été placé en détention provisoire. Claudia Sheinbaum, elle, ne s'est pour l'instant pas exprimée.
Myriam Roch-Massarin aux États-Unis, la une du quotidien New York Post. Interpelle ce matin. On y voit le nouveau maire de New York, Zoran Mamdani, élu la nuit dernière, les bras levés avec dans ses mains une faucille et un marteau, symbole du communisme. C'est évidemment un montage, un maire rouge donc, pour la plus grande ville des États-Unis. Voilà comment ses adversaires voient ce jeune élu. 34 ans, encore inconnu il y a un an. Précision importante, il est né en Ouganda, il ne pourra donc pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ce qui ne l'empêche pas de défier déjà Donald Trump et de bousculer son parti démocrate. Reportage à New York, Franck Madvon.
Les militants qui ont fêté hier soir la victoire de Zoran Mamdani ont aussi célébré ce qu'ils voient comme un tournant pour le parti démocrate. Pour Stéphanie, le maire élu a proposé des mesures concrètes qui parlent à tous, le coût de la vie et la préoccupation des électeurs américains.
Les propositions qu'il a défendues, c'est rendre la ville moins chère, des bus rapides et gratuits, des crèches accessibles, le gel de certains loyers. Ces idées trouvent un écho auprès d'une grande partie des habitants, parce qu'ils sont tous affectés par ces sujets économiques au quotidien, chaque jour. Donc les démocrates doivent changer et se concentrer sur ce qui intéresse les gens ordinaires.
L'éloquence de Mamdani est un autre enseignement pour les démocrates. Son discours de victoire l'a encore prouvé. Il est charismatique, trouve les bonnes formules. Val aimerait voir ses qualités parmi les figures démocrates.
C'est un exemple éloquent de ce que les gens attendent de leurs dirigeants. Je n'ai pas le souvenir d'un seul discours de cette administration ou de la précédente qui m'ait ému autant que les discours de Zoran. J'espère que les démocrates en prendront note pour évoluer de manière positive.
Mais le Parti démocrate retiendra aussi qu'en Virginie et dans le New Jersey, deux candidates plutôt centristes se sont imposées pour le siège de gouverneur. Rien ne dit que les recettes appliquées à New York peuvent marcher ailleurs aux États-Unis. New York, Franck Madvon, France Inter.
C'est le bébé de la famille Djokovic. Depuis des années, le tournoi de tennis de Belgrade, berceau de Novak Djokovic, accueille quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Mais en ce moment, ce n'est pas dans la capitale serbe que se trouve l'homme aux 24 victoires en Grand Chelem, mais en Grèce, où se déroule désormais ce tournoi. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
La Grèce, c'est son pays d'adoption. Il est fâché avec la Serbie.
Oui, et s'il est aujourd'hui persona non grata en Serbie, c'est parce que Novak Djokovic apporte son soutien depuis un an au mouvement de révolte de la jeunesse orchestrée par les étudiants qui dénoncent la corruption du pouvoir. À l'origine de ce conflit, l'effondrement le 1er novembre 2024 d'un abribus à la gare de Novi Sad qui a causé la mort de 16 personnes. Les étudiants sont alors sortis dans la rue pour protester contre les autorités, entraînant avec eux une grande partie de la population et Novak Djokovic. « Je suis à côté du peuple et des jeunes », a-t-il dit en juillet dernier. « Je n'éprouve que de la sympathie pour ceux qui manifestent ». Les médias favorables au pouvoir crient alors à la trahison et traitent même Djokovic de faux patriote et même d'ennemi d'État. Évidemment, Novak Djokovic reste une idole et un héros national, mais maintenant qu'il est tombé en disgrâce, il a ressenti le besoin, pour ne pas dire l'impérative nécessité de déménager, de partir, de quitter Belgrade pour s'installer à Athènes, où il a délocalisé son tournoi, organisé à l'origine, vous l'avez dit, dans la capitale serbe, et où depuis 2 mois, il vit en sécurité avec son épouse et ses 2 enfants dans un environnement, dit-il, favorable, que ce soit sur le plan psychologique, physique ou émotionnel.
Et voilà pourquoi ce tournoi a lieu en ce moment en Grèce. Récit signé Fabrice Abgral. Dans l'océan Atlantique, l'arrivée se profile pour les premiers concurrents de la Transat Café L'Or. Les ultimes, les maxi trimarans, sont attendus demain en Martinique. C'est SVR Lazartigue de Tom Laperche et Franck Camas qui mènent la flotte plus loin derrière. Les Imoca, les bateaux du Vendée Globe avec une flotte emmenée par Charal du duo Jérémy Bayou, Morgan Lagravière. La course, cette fois au prix littéraire. Après le triomphe de Laurent Mauvignier, prix Goncourt pour La Maison Vide. On avait laissé Emmanuel Carrère tout à fait déçu de repartir sans ce prix. C'est peut-être une consolation pour lui. Bonjour Ilana Mourioussef.
Bonjour.
Emmanuel Carrère remporte à l'instant pour Colcause le prix Médicis.
Et je l'ai vu à son arrivée, il avait l'air tout à fait heureux et fier. Il obtient donc le prix Médicis pour Colcause, portrait flamboyant de sa mère, Hélène Carrère-Dancausse, et aussi traversée du siècle et du continent à travers sa famille. Emmanuel Carrère, donc très heureux, puisque, a-t-il dit, le Médicis avait été attribué à l'un des écrivains qu'il révère, Georges Perec, pour La vie mode d'emploi. Le prix Médicis étranger a été attribué à la Britannique Nina Allan pour Les bons voisins et une mention spéciale du jury a été attribuée à l'écrivain hongrois Peter Nadas pour le premier volume de ses mémoires, Ce qui luit dans les ténèbres.
Ilana Mourioussef avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre. Comme les romans primés cette semaine, ce sera l'un des hits de Noël. La nouvelle console de Nintendo, la Switch 2, coûte près de 450 €. C'est un tiers de SMIC, Olivier Bénis, mais les ventes s'envolent dans le monde.
Oui, 10 millions de Switch 2 vendus en seulement 4 mois. Même Nintendo ne le voyait pas venir. Le géant japonais prévoyait 15 millions de consoles vendues en un an, ce qui était déjà très optimiste. Et finalement, il mise sur 19 millions. Alors pour comparer, 10 millions en 4 mois, c'est plus que la première Switch, qui était pourtant le plus gros succès de Nintendo, qui était en dessous des 5 millions sur la même période, plus que la PlayStation 5, qui approchait des 8 millions. Mm-hmm. Et si la Switch Switch 2 continue sur le même chemin, elle pourrait battre le record absolu en la matière, c'est la PlayStation 2 et ses 160 millions de machines vendues. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des possesseurs de Switch 2, 84%, possédaient déjà une Switch 1, donc il y a une fidélisation, et que le prix, vous l'avez dit, très critiqué au lancement, n'est au final pas un frein. Pour un catalogue de jeux de plus en plus similaire, la Switch 2 reste moins chère qu'une PlayStation 5, une console dont le prix n'a jamais baissé en 5 ans. Il a même augmenté deux fois à cause du coût de ses composants.
Merci Olivier Bénis. Le cinéma.
Jack.
Hubert Bonisseur de la Batte.
Il s'appelle juste Leblanc.
Marcello.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul.
Mais qui est Kaiser Soze?
Et les conseils d'Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme.
On commence avec un drame social qui vous a beaucoup plu, Les Braises.
Oui, un film qui nous replonge 7 ans en arrière, l'automne 2018 et le mouvement des Gilets jaunes.
C'est qu'on est plus de 300 000 depuis ce matin. Il y a même un rassemblement qui se prépare samedi.
Il y a une manif.
Jimmy, j'ai envie d'y aller.
Karine, interprétée par Virginie Efira, est une ouvrière qui occupe un rond-point près de chez elle dans l'espoir de faire bouger les choses. Jimmy, son mari, incarné par Arié Vortalter, est un petit entrepreneur qui observe cette colère qui monte avec un mélange de méfiance et de mépris. Malgré cet antagonisme un peu téléphoné, Les Braises évite bien des pièges, déployant une intrigue nuancée et très touchante. Le réalisateur Thomas Kruithof s'empare courageusement de cette page d'histoire récente, sous-exploitée pour le moment au cinéma, pour mêler conscience sociale et sens du romanesque, avec un point de vue, un sens du cadre et une direction d'acteur d'une grande justesse.
Vous nous recommandez également, Alexis, le film historique Deux procureurs.
Le cinéaste ukrainien Sergueï Losnitsa nous plonge dans les prisons soviétiques de la fin des années 30. Des milliers de prisonniers politiques y sont incarcérés pour des motifs souvent absurdes. Un jeune procureur, persuadé que le régime communiste respecte scrupuleusement la loi, va tenter d'obtenir justice pour un vieil homme condamné à tort.
Содержится арестованный Степняк Иван Степанович.
Спецкорпус.
En décrivant la cruauté et l'arbitraire des purges staliniennes, Losnitsa fait bien sûr des clins d'œil appuyés à notre époque. Sa démonstration est implacable et pourrait n'être que ça. Mais Deux procureurs recèlent aussi de très forts moments de cinéma, grâce notamment à la belle présence d'Alexandre Kouznetsov dans le rôle de ce procureur idéaliste qui surnage dans un système kafkaïen.
Et puis un film d'animation pour adultes, Duel à Monte Carlo del Norte.
Il y a là aussi quelque chose de très actuel dans ce western dessiné mis en scène par l'américain Bill Plimpton. Ce grand nom de l'animation indépendante multiplie en effet les clins d'œil à l'Amérique trumpiste, avec cette histoire de politicien corrompu qui souhaite raser un village de pêcheurs pour construire un lotissement de luxe. Heureusement, Slide, un cow-boy armé d'une guitare, va faire équipe avec une tenancière de saloon pour éviter ce désastre social et écologique. Avec ses dessins bizarres et bigrement inventifs et ses dialogues dopés au second degré, Duel à Monte Carlo del Norte prouve l'immense talent de Bill Plimpton, qui compte parmi ses fans Terry Gilliam et Matt Groening, le créateur des Simpsons.
Quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis ?
L'inconnu de la Grande Arche, évoque du parcours semé d'embûches de l'architecte danois de l'Arche de la Défense. T'as pas changé, comédie de Jérôme Commandeur avec Laurent Lafitte et Vanessa Paradis. Et France, une histoire d'amour, un documentaire signé Yann Arthus Bertrand qui part à la rencontre des Français après avoir sillonné le monde.
Merci Alexis Demeyer, je vous dis à mercredi prochain. Je vous redonne l'information principale de ce 13-14, une voiture folle ce matin sur l'île d'Oléron, un automobiliste qui fauche 10 personnes, des piétons et des cyclistes. 4 personnes sont en situation d'urgence absolue, dont blessées graves. Parmi elles, on l'a appris il y a quelques instants, une attachée parlementaire d'un député Rassemblement National de Charente-Maritime. Cet homme de 35 ans a été interpellé. Il a crié « Allah Akbar » avant les faits, mais le parquet antiterroriste n'a pas été saisi pour l'instant. Le motif psychiatrique n'est pas écarté. Il y a également des témoignages qui font état d'un homme avec une forte consommation d'alcool et de drogue. Plus d'informations dans nos prochains rendez-vous. 13h28 sur Inter. Ou d'ici 14h, évidemment, 13h28, dans la prochaine demi-heure, la météo de Céline Dacosta qui va nous rejoindre. À 13h30, nous donnons la parole aux voyageuses. Quelle solution pour dissuader les agressions dans les transports en commun? 01 45 24 7000 pour vos témoignages et questions à nos deux invités qui sont en charge de la sécurité dans les transports à Orléans et à Montpellier. 13h45, notre feuilleton. Le témoignage très fort d'Aurélie Sylvestre, 10 ans après les attentats du 13 novembre. Elle a perdu son compagnon au Bataclan et elle va nous parler du procès. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Patrice Trappier, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jérôme.
Patrice, c'est le mois sans tabac.
Oui, ça dure depuis 10 ans et à cette occasion, je vais vous parler de cette France du 20e siècle où on fumait à plein tube. Et tout ce qui a changé depuis.
Et avec vous Frédéric, une actrice.
Florence Darel, qu'on peut voir actuellement au théâtre de Passy à Paris dans Drôle de justice. Et avec elle, nous écouterons un morceau des années 80, Cathy prend le train de Graziella de Michel.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Tous les matins sur France Inter, la grande matinale vous ouvre les fenêtres sur le monde.
9h, 11h, Sonia De Villers.
À 10h30, le mag de la vie quotidienne avec Ali Rebéi.
Comment gérer les peurs des enfants? Comment manger sain, bon et de saison? Comment mieux gérer son argent? Avec des experts hors pair, nous répondrons à vos questions au 01 45 24 7000.
Qu'est-ce que vous recommanderiez pour quelqu'un qui souhaite absolument pas que son argent serve à soutenir une industrie extractive à l'autre bout du monde?
La grande matinale.
Le mag de la vie quotidienne, c'est tous les jours à 10h30 sur France Inter.
T'as choisi ?
Je crois que je vais y aller.
Ça va pas ?
Je me sens vraiment fatiguée. J'ai de la fièvre, des douleurs thoraciques, j'ai du mal à respirer.
Ces symptômes ne sont pas anodins. Ils peuvent être dus à une pneumonie à pneumocoque, une infection respiratoire d'origine bactérienne aux conséquences parfois graves. Chaque année, elle touche des milliers de patients à risque. Pourtant, c'est une maladie que l'on peut prévenir par la vaccination et les gestes barrières. Vous êtes peut-être à risque. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cette campagne d'information est menée à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer.
France Inter, partenaire de la Foire du Livre de Brive du 7 au 9 novembre. 3 jours pour vibrer au rythme des mots. Plus de 500 auteurs rencontrent des milliers de lecteurs sous la présidence de Philippe Claudel. Rencontres, dédicaces, lectures et animations. Une édition placée sous le signe de la liberté et du sentiment de fraternité. À partager avec les amoureux des livres, des bandes dessinées et de la littérature jeunesse et ado. La Foire du Livre de Brive, l'événement littéraire incontournable de l'automne, du 7 au 9 novembre avec France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
C'est la journée la plus douce de la semaine.
Oui, une ambiance printanière pour un début novembre avec une moyenne qui va de 16 degrés à Mulhouse jusqu'à 25 degrés à Biarritz en passant par 18 degrés à Paris.
Et tout ça dans une ambiance encore calme?
Oui, alors ça va changer demain puisqu'on a une nouvelle perturbation qui va arriver. Mais en attendant, on a encore pas mal de soleil sur l'est du pays, de l'Alsace à la région PACA et en Corse. Et plus on va vers l'ouest, plus le ciel se voile avec même en fin d'après-midi des nuages qui vont devenir nombreux sur la façade atlantique, sur la pointe bretonne. Avec déjà là quelques gouttes, c'est les prémices de la perturbation qui nous attend demain. Notez qu'on a également du vent, un vent de sud qui souffle sur quasiment tout le territoire et un vent d'autant qui se renforce et qui va souffler cet après-midi jusqu'à 100 km à l'heure.
Merci Céline Dacosta. Si vous n'avez pas de nuages au-dessus de vos têtes, ne manquez pas la pleine lune ce soir qui s'annonce exceptionnelle. 13h32.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est une inégalité entre hommes et femmes dont on parle peu, le droit de se déplacer en toute tranquillité. Nous ne sommes pas égaux face à ce droit fondamental et l'agression récente dont a été victime une jeune brésilienne dans le RER francilien ces derniers jours nous l'a rappelé. Elle n'a dû son salut qu'à l'intervention courageuse d'une autre voyageuse. Un chiffre, dans les transports d'Île-de-France, 7 femmes sur 10 ont déjà subi des violences sexistes et sexuelles. C'est une étude de la mission interministérielle pour la protection des femmes qui a été publiée au mois de mars. Beaucoup de gens s'expriment sur ce sujet depuis quelques jours. Nous avons choisi de donner la parole à 2 personnes en charge, comme on dit, 2 élus qui connaissent bien le terrain. Bonjour Julie Fraîche.
Bonjour.
Vous êtes élue de la ville de Montpellier, majorité de gauche. Vous y êtes déléguée au transport. Vous nous direz ce que vous faites dans votre ville dans les prochaines minutes. Avec nous également, Florent Montillo. Bonjour.
Bonjour.
Premier adjoint au maire d'Orléans, majorité de droite. Vous êtes chargé notamment de la sécurité, de la tranquillité publique et vous nous expliquerez vos choix. Je précise que vous intervenez tous deux en direct d'ici Orléans, puisqu'Orléans accueille depuis hier les rencontres nationales du transport public. Vous qui prenez les transports en commun, venez nous raconter, vous êtes déjà nombreux à le faire. 01 45 24 7000. Vous passez également via l'application Radio France. Je voudrais d'abord donner la parole à Vigdis Maurice Herrera. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes militante, vous dirigez une association pour promouvoir, défendre les droits des femmes. Et il se trouve que vous avez été témoin et victime la semaine dernière dans un train entre Sète et Montpellier de l'agression sexuelle d'une jeune fille de 17 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, tout à fait, merci beaucoup. Alors moi, je rentrais d'une conférence donc, où j'étais invitée pour parler de ma plateforme de prévention et d'orientation des victimes de violences conjugales Opale. Pendant 4 heures, j'ai partagé mon expérience de victime et j'ai écouté les témoignages de nombreuses femmes. Autant dire qu'en arrivant en gare de Sète, il était 22h30, j'étais épuisée du poids du monde et de la solitude qu'on traverse. Donc, quand j'ai repéré cet individu au comportement étrange, j'ai décidé de me positionner pas trop loin des autres. Et j'ai entendu ces deux jeunes filles dire que l'homme les avait touchées. Donc, j'étais pas la seule à avoir pu entendre cela, puisqu'on était nombreux sur le quai. J'ai demandé confirmation aux deux jeunes filles sur ce que je venais d'entendre, et j'en ai informé l'agent de sécurité sur le quai. Donc je monte dans ce très long TER, volontairement dans le même wagon que les filles au cas où. On était une vingtaine de personnes dedans. Au bout de quelques minutes, l'homme, il arrive, il s'installe de manière à les avoir à vue. Il a choisi expressément ce wagon-là pour ça. Et quand on arrive en gare de Montpellier, il se lève rapidement pour aller à côté des filles et non pas du côté de la porte la plus proche où on était tous les deux. Bah alors j'ai fait pareil. J'ai forcé le passage entre elle et lui pour qu'il ne les ait plus dans son champ de vision. Et au moment où les filles elles sortent, lui il a essayé de me pousser plusieurs fois. Et je lui ai dit, tu attends, les filles elles sortent d'abord. Il a arrêté de me pousser, il s'est mis à me toucher les fesses. Je me suis retournée, je lui ai attrapé la carotide. J'ai serré très fort, je l'ai basculé en arrière contre les fauteuils tout en lui hurlant dessus que si jamais une seule fois de sa vie il retouchait un cul, j'allais le buter. Je n'ai jamais fait de cours de self-défense, je le précise. C'est un passager qui nous a séparés, il l'a maintenu en attendant l'arrivée de la brigade ferroviaire. Le policier m'a indiqué que mon alerte en gare de Sète auprès de l'agent de sécurité n'avait pas donné lieu à un signalement à leur intention pour une interpellation à Montpellier, comme le protocole l'exigeait. Et cela dit bien quand même quelque chose, quand on parle, on ne nous croit pas. Si quelque chose avait été fait par l'agent de sécurité, mon agression à moi aurait pu être évitée. J'aurais pas eu à m'interposer pour que les deux filles mineures ne soient pas suivies par cet homme dans l'indifférence générale. Donc ensuite, les policiers, ils ont été d'une extrême gentillesse, je tiens à le dire, la brigade ferroviaire, la police nationale.
Vous avez déposé plainte ?
Tant à mon égard qu'à celle des jeunes filles. Et justement, j'ai déposé plainte le lendemain. Et j'avoue que j'ai été extrêmement surprise de voir comment j'ai été bien traitée dans ce commissariat. Parce que moi, quand j'ai déposé plainte il y a 3 ans pour viol conjugal contre un homme en situation régulière et français, j'ai été moi maltraitée par le commissariat.
Ça n'avait pas été le cas. Merci pour ce témoignage, Vigdis Maurice Herrera. Je précise que le jugement sera rendu le 3 décembre dans cette affaire. Julie Fraîche, voilà qui s'est produit tout près de chez vous, hein, dans un train entre Sète et Montpellier. Est-ce que vous constatez une dégradation de la situation de ce point de vue-là dans vos transports depuis quelques mois ?
Bon, déjà, c'est vrai que partout en France, nous savons que les femmes sont exposées au harcèlement sexuel, aux regards insistants, aux propos obscènes, aux attouchements non consentis, notamment quand les transports sont bondés, et parfois à des agressions physiques ou sexuelles.
Est-ce que ça se dégrade ? Alors, est-ce qu'il y a plus de cas qui vous remontent ?
Alors, disons qu'aujourd'hui, il faut savoir que parce qu'on forme et parce qu'on sensibilise les forces de l'ordre, parce que à Montpellier, le parquet est mobilisé, il en a fait un axe prioritaire sa politique pénale, du coup, on a aussi simplifié et favorisé le dépôt de plainte, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et donc, on a vraiment mis en place, tous les outils nécessaires pour traiter cette insécurité qui touche plus particulièrement les femmes seules dans les transports.
Florent Montillo, est-ce que vous avez estimé, par exemple, à Orléans, combien de femmes peuvent peut-être renoncer à se déplacer en raison de cette menace ?
D'abord, je voudrais dire, je rends hommage à la personne qui a porté témoignage il y a quelques instants. Et à son courage. Ouais. Alors, très souvent, d'ailleurs, je le précise, les femmes sont plus courageuses que les hommes. J'en ai eu encore un témoignage, moi, très récemment sur Orléans. C'était il y a une dizaine de jours, où c'est une femme, je l'ai d'ailleurs en film, parce que ça a été filmé, qui s'est interposée, alors qu'un individu que nous avons interpellé d'ailleurs, enfin, que la police a interpellé dans la suite, essayait d'agresser. Et c'est vraiment une femme, ça dure quand même pendant deux minutes, hein. Ouais. Qui vraiment s'interpose, qui le maintient physiquement, hein, c'est absolument extraordinaire d'ailleurs à voir. Alors maintenant, à l'inverse, si vous posez la question de savoir si les choses augmentent ou pas, non, elles n'ont pas tendance à augmenter parce qu'on a mis justement en place maintenant depuis une vingtaine d'années donc une police intercommunale des transports, la première en France sur ce sujet-là, qu'on a augmenté les effectifs plus celui des contrôleurs, ce qui veut dire qu'on a heureusement un ensemble de dispositifs humains qui nous permettent en quelque sorte de prévenir, de juguler et surtout d'intervenir immédiatement lorsqu'il y a ce fait. Mmh. Et surtout, nous venons de mettre en place depuis maintenant un mois un dispositif, une application TAO là, pour le transport de l'agglomération orléanaise qui nous permet d'avoir un bouton d'alerte sur les smartphones directement, SOS, qui fait que lorsqu'on constate quelque chose, immédiatement, n'importe quelle personne, c'est-à-dire aussi bien une éventuelle victime que un témoin ou une personne donc, qui est en visu, puisse immédiatement appeler effectivement le
G7. Je suis dans le tram d'Orléans, donc il faut que j'ai cette application. C'est TAO, c'est ça le nom?
C'est tout. Application TAO, c'est-à-dire TAO, ce qui veut dire transport de l'agglomération
orléanaise.
Donc
c'est l'appli des transports orléanais, en fait.
Totalement.
Et dessus, il y a une option, il y a un bouton alerte.
Immédiatement, en fait, c'est même pas une option. C'est-à-dire que lorsque vous ouvrez l'appli, tout de suite, il y a marqué SOS, ce qui veut dire que vous pouvez effectivement appuyer. Alors, c'est
pas fait. Je suis géolocalisé, donc les services qui reçoivent l'alerte, ça se passe.
C'est exactement cela. Voilà. Et sachant que aussi bien la police nationale, la gendarmerie pour la zone gendarmerie, que la police intercommunale des transports ou police municipale peuvent évidemment intervenir immédiatement et notamment cueillir l'individu, parce que si ça se passe dans un endroit confiné, tramway, bus, ben évidemment lorsque le moyen de transport va s'arrêter, c'est là que nous allons pouvoir effectivement immédiatement interpeller l'individu.
Julie Fraîche, vous allez faire ça vous aussi à Montpellier ?
Oui, bien sûr, on lance le dispositif le 25 novembre, hein, lors de la journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes. En fait, on a exactement la même application mobilité. Chez nous, elle s'appelle l'application M-Ticket. Sur la page d'accueil, vous avez un bouton SOS, ce qui permet en fait à un témoin ou une victime d'agression d'enclencher. Celle-ci a le choix d'être en mode silencieux ou de pouvoir parler, soit oralement, soit textoté directement, parce que l'application est reliée au poste de commandement et de contrôle de l'opérateur de transport qui enregistre et écoute en direct ce qui se passe dans la rame ou dans le bus, et ce qui lui permet aussi de graduer l'intervention. Est-ce qu'il va envoyer les agents de contrôle du réseau de transport, la police métropolitaine des transports qui a vu le jour depuis 2023 à Montpellier sous l'impulsion de son maire Michael Delafosse, ou les agents de la police municipale. Voilà, donc c'est un dispositif qui est essentiel pour nous, mais qui vient s'inscrire vraiment dans un système beaucoup plus large. Nous, on a également mis en place l'arrêt à la demande, ce qui permet par exemple aux femmes seules, avant 7h du matin et après 21h, où on sait que le sentiment d'insécurité est le plus fort, hein, c'est plus 52%, où le sentiment d'insécurité est le plus fort après 21h. Donc à Montpellier, après 21h, bah, les femmes et l'ensemble de la population a la possibilité de pouvoir appuyer sur le bouton. Et donc le bus s'arrête au plus proche de leur habitation.
Oui, ça leur évite de faire des mètres supplémentaires durant lesquels elles peuvent être importunées, voire pire, agressées. Il y a une pétition qui a été lancée, Florent Montillo, il y a quelques jours, pour réclamer, alors ça concerne plutôt les métros ou les RER ou les TER, des wagons dédiés aux femmes. Ça se fait aussi dans certains pays. Est-ce que c'est une option, si on n'arrive pas à juguler ces agressions, qui vous paraît envisageable ?
Alors sincèrement, non. D'abord parce que je comprends bien en ce qui concerne les RER et métro, puisqu'il y a évidemment des rames différentes. Il faut savoir qu'une rame de tramway, c'est un tube. Voilà, donc on ne peut pas en quelque sorte le subdiviser. Je pense, alors, en plus, je pense que c'est une mauvaise solution. En tout cas, je parle en dehors des métros RER et des trains. Je pense que c'est une mauvaise solution parce qu'en fait, qu'est-ce qui permet d'éviter en plus les phénomènes d'agression ? C'est plutôt le regroupement de l'ensemble des individus. C'est-à-dire de véritablement, non pas entre guillemets, parquer dans un endroit droits les femmes, mais de faire en sorte que tout le monde puisse se regrouper au même endroit. C'est-à-dire, y compris tardivement, tramway, bus, de pouvoir se trouver en quelque sorte à plusieurs au même endroit. On voit d'ailleurs dans le témoignage de cette jeune femme-là sur ce qui s'est passé entre Sète et Montpellier, on voit, moi je vois ce qui s'est passé dans le tramway à Orléans récemment, on voit bien que c'est précisément parce que ça n'est pas compartimenté que des personnes ont pu en quelque sorte intervenir. Non, je pense qu'il faut surtout permettre la forte réactivité, c'est ça le plus important, et que ce soit les systèmes des boutons d'alerte...
Il faut être très réactif, parce que quand vous êtes agressé, c'est une question de secondes.
C'est exactement ça, vous avez parfaitement raison.
Il faut que je donne la parole à Sophie qui nous appelle de Caen. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, alors moi j'ai eu une mésaventure pour ma fille. Dimanche dernier, elle a pris le train donc à 9h du matin. On n'est pas censé se faire importuner à 9h du matin un dimanche. Et jusqu'à Caen, donc de Paris à Caen. Et elle avait une place solo, j'avais pris une place solo. Donc normalement, il n'y avait personne à côté d'elle. Et il y avait quand même un siège libre que je ne savais pas. Et donc quelqu'un est venu s'asseoir à côté d'elle. Et l'a importunée pendant les 2 heures de trajet par des questionnements. Elle s'est trouvée, elle a moins de 16 ans, elle a 15 ans. Elle s'est trouvée, elle n'a pas su réagir. Elle s'est un peu enfermée dans sa bulle avec ses écouteurs, mais elle s'est trouvée, oui, sidérée par la situation. Et... Alors le contrôleur est venu, il a apparemment longuement parlé avec l'homme, mais l'homme pour autant est resté à sa place.
Et le contrôleur ne l'a pas fait changer de place ?
Non, malheureusement, alors que... Normalement, elle devait être seule à cette
tâche. Merci Sophie pour votre témoignage. Julie Fraîche, comment réagir dans ces circonstances ?
Alors là, la chose la plus importante, c'est la formation des agents. Et pour nous, c'est une question qui est capitale. Vraiment,
parce qu'on l'a vu aussi avec le premier témoignage tout à l'heure de la personne chargée de la sécurité en garde 7 qui ne réagit pas non plus.
Non, bien sûr, en fait, il est hors de question de banaliser tous les cas de harcèlement, les paroles déplacées, les gestes déplacés. Tout ça n'a plus sa place dans les transports. Les agents sont en première ligne. Donc, d'une part, ils doivent être protégés. La ville de Montpellier, systématiquement, on se constitue partie civile, on dépose plainte parce que les agents représentants de la force publique doivent être protégés dans leurs actions au quotidien parce qu'ils sont en première ligne. Ensuite, ils doivent être formés et sensibilisés à toutes les formes de violence pour tous les publics vulnérables, dont les femmes seules font partie. Ils sont formés, aussi bien par nos collectivités, mais aussi, parce que je le dis, à Montpellier, il y a une forte mobilisation du parquet. Il y a un magistrat dédié à la formation des agents, ce qui simplifie ensuite toutes les démarches et qui sensibilise vraiment les agents à ces problématiques de violence faite aux femmes.
Merci à tous les deux, Julie Fraîche, élue à Montpellier, Florent Montillo, élu à Orléans. Vous interveniez en direct et je les en remercie. D'ici Orléans, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Nous sommes dans la vie d'Aurélie Sylvestre, qui, il y a 10 ans, a perdu son compagnon Mathieu Giroux au Bataclan. Depuis, elle témoigne aujourd'hui dans un lycée, c'est à Suresnes. Charlotte Piret est avec elle et aujourd'hui, troisième épisode, elle parle du procès aux élèves.
Du procès, je me souviens de deux phrases. La première, c'est Mohamed Abrini, qui était accusé, qui a dit au procès « On n'est pas sorti du ventre de notre mère avec des kalachnikovs ». Et je trouve cette phrase hyper puissante, en fait, parce qu'elle raconte, en effet, la trajectoire, quoi. C'est-à-dire, c'est vrai, enfin, voilà, ils sont pas nés avec une kalachnikov, c'est sûr. À un moment donné, ils se sont dit « Tiens, c'est ça la solution, c'est ça que je vais faire ». Donc à quel moment on se dit que ça va être une solution ? Et l'autre phrase, c'est Salah Abdeslam, qui était donc le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre, qui a dit, en fait, en gros, je le cite mal, mais c'est l'idée, que vous le vouliez ou non, on est liés. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup mise en colère, mais elle m'a mis en colère parce qu'elle est juste, en fait. De fait, j'ai dans la frise chronologique de l'histoire de ma famille le djihadisme qui apparaît. Et si on est lié, alors, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Voilà. Mais j'ai pas du tout fini de répondre à cette question. Et si vous avez des pistes, je suis preneuse. Voilà.
Je m'appelle Margot. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous sentir coupable ?
C'est une super bonne question, en fait. Et je suis pas sûre de bien y répondre. Mais en tout cas, Moi, je me suis sentie un peu coupable. Est-ce que les commandos du 13 novembre, c'est pas des gens qui venaient de pays lointains, en guerre? Pas du tout, c'est des gens qui ont été élevés soit en France, soit en Belgique, qui ont grandi dans des écoles qui n'étaient pas si loin de la mienne, en fait. Et donc je me disais, à quel moment ça foire, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait collectivement pour en arriver là? Pour que des gars de mon âge viennent tuer un vendredi soir d'autres gars de leur âge, parce qu'ils écoutent de la musique, voilà. Et donc, c'est une forme de culpabilité particulière, mais voilà, j'ai eu ce truc de me dire, bah, voilà, qu'est-ce qu'on a foiré, quoi. Ouais, y a des
questions. Est-ce que vous pensez qu'un jour sera possible de vous dire que vous avez vraiment, entre guillemets, guéri, et que par rapport à ces événements-là, vous allez mieux ?
Il y a deux questions.
Ouais, il y a deux questions. La première, c'est est-ce qu'on peut définitivement aller bien ? Et la réponse est oui, ça c'est possible, et c'est le cas. Sur la question de est-ce qu'on se libère de ça, moi j'y ai cru en fait. J'y ai cru en allant au procès en fait, en me disant bon bah voilà, j'ai géré mon chagrin, j'ai géré mon deuil pendant 6 ans, ça j'ai à peu près compris, ça va mieux. Maintenant je vais m'attaquer aux faits. Donc je me suis dit je vais tout apprendre de l'histoire, je vais noter des dates, des lieux, tout plein de détails quoi. Et après ça, terminé. Et puis, en fait, à un moment donné, j'ai compris que non, en fait. Les attentats, c'est pas des dates, c'est pas des lieux. En tout cas, pas seulement. C'est aussi des histoires d'hommes, de trajectoires, de familles, etc. Et moi, je suis en train de prendre conscience que bah, je ne penserai jamais plus à cette histoire. Aussi parce qu'elle elle a fait bouger tellement de choses en moi que j'ai même identitairement changé. Et donc, c'est difficile à admettre, mais elle me constitue beaucoup quand même. Ce qui ne m'empêche pas, pour la deuxième partie de la question, d'être heureuse.
Aurélie Sylvestre, dans notre feuilleton toute cette semaine, que vous retrouvez sur l'application Radio France.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mercredi 13h50, le regard du 1 hebdo aujourd'hui avec vous, Patrice Trappier. Patrice, novembre, c'est le mois sans tabac.
Oui Jérôme, comme janvier sans alcool ou juin sans sucre ajouté, nos calendriers sont pleins de campagnes de prévention. Mais dans le cas du tabac, c'est tout sauf un gadget. Depuis 2016, 1,5 million de personnes ont répondu à cette proposition d'aide pour arrêter de fumer. Ce mois sans tabac, c'est l'une des nombreuses initiatives qui font que la consommation de cigarettes ne cesse de baisser. Songez qu'à la fin des années 50, 3 hommes sur 4 fumaient en France, 15% de femmes, et pas loin de la moitié dans les années 80.
À quoi ressemblait ce monde dans lequel, en fait, la cigarette était partout ?
Oui, il faudrait pouvoir fermer les yeux, se représenter un univers où des cendriers débordent de mégots, imaginer des salles de café ou de restaurants envahies par un brouillard épais, des voitures, des trains, des avions où une bonne partie des voyageurs clopent à tout va.
Des studios de radio ?
Absolument, mais aussi des salles de cinéma, des cours à la fac, même des rendez-vous chez le médecin. Ensuite, on ouvre les yeux et on pourrait regarder de vieux films, par exemple Les choses de la vie de Claude Sautet, ce cinéaste qui parlait en allumant une cigarette avec le mégot de la précédente. Le film Les choses de la vie raconte les tourments d'un architecte, Michel Piccoli, qui brûle sa vie en même temps que ses trop nombreuses gitanes et va finir par s'envoyer en l'air au volant de sa voiture, sans ceinture mais avec une clope au bec. Les années 70, c'est tout cela, boire, fumer, rouler trop vite. Et si on remonte aux années 60 avec la série Mad Men, visible en ce moment sur Arte, on voit la femme de Don Draper griller des cigarettes jusqu'au moment d'accoucher. Des campagnes de pub prétendaient alors que c'était bon pour la santé des futures mères.
C'était de l'inconscience, Patrice ?
Pas de la part des lobbies du tabac, qui n'avaient aucune limite pour vendre leurs marchandises en toute connaissance de cause. Pour les fumeurs, en revanche, c'était l'état d'esprit des Trente Glorieuses, vivre sa vie sans entrave. En 75, le papa d'Astérix, René Goscinny, dans une de ses chroniques du journal du dimanche Ancienne Manière, reprochait à son médecin de lui demander de ralentir sa consommation de cassoulet, de whisky et de cigarettes. 2 ans plus tard, il succombait à un infarctus chez son cardiologue en plein test d'effort.
Bon, sur ce plan, c'était pas mieux avant, on a complètement changé de monde.
Ah oui, absolument. Oui, les interdictions de fumer dans les lieux publics bientôt étendues près des squares et des écoles, les très fortes hausses des taxes et donc des prix, tout cela a fait largement reculer la consommation de tabac. À peu près un quart de Français fument encore, avec une quasi-égalité entre hommes et femmes et des divergences croissantes entre des pauvres qui fument et des plus riches qui s'abstiennent ou qui vapotent. Mmh. Cela n'empêche pas le tabac de continuer à tuer. 75 000 personnes par an, c'est la première cause de mortalité évitable. En 2023, l'Observatoire français des drogues estimait à 156 milliards par an le coût social du tabac en dépit de toutes les taxes qu'ils rapportent. Pour comparer, l'alcool, c'est 100 milliards, les drogues illicites, seulement 7 milliards. Une note d'espoir pour terminer. Depuis 10 ans, les jeunes consomment moins de drogue, beaucoup moins de cannabis, et les experts l'expliquent par un rejet des produits fumés. Pour les jeunes, le tabac, c'est chimique, ça pue, c'est dangereux. C'est le produit qui a rendu dépendants parents et grands-parents. Les conflits de génération, ça a souvent du bon.
Merci Patrice Trappier. La une du 1 hebdo en ce mercredi. Trump en route vers la tyrannie. Point d'interrogation. De C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est une comédienne. Florence Darel, que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Florence Darel, qu'on peut voir aux côtés de Daniel Russo sur la scène du Théâtre de Passy à Paris, dans la pièce Drôle de justice de Jean-Marie Roire. Et avec elle, c'est une chanson de Graziella de Michel que nous avons parlé. Cathy prend le train, une chanson sortie en 1989.
J'ai une vingtaine d'années donc, et je suis devenue un oiseau de nuit. C'est-à-dire que je veux devenir comédienne déjà, et puis je sors en boîte toutes les nuits, quasiment.
Vous habitez à Paris ?
J'habite à Issy-les-Moulineaux, et je vais danser au bain, au palace, au privilège, on finit la nuit au privilège. Je fais que danser, je ne bois pas, je ne me drogue pas, mais je suis complètement déchaînée sur la piste de danse.
Vous avez toujours aimé danser ?
J'ai voulu être danseuse même avant. Et je rencontre des tas de gens qui sont dans ce milieu de la nuit. Et il y a cette chanteuse, Graziella de Michel, qui est là aussi. Et elle sait que je veux devenir comédienne. Et un jour, elle me dit, écoute, je vais faire un clip sur ma prochaine chanson. Et elle me dit, si le metteur en scène est d'accord, tu le rencontres. Et s'il est d'accord, c'est toi qui seras l'héroïne du clip. Ça va s'appeler Cathy prend le train.
Frédéric, la question c'est, Florence Darel l'a-t-elle finalement tourné ce clip ?
Eh bien oui, elle l'a tourné sous la direction de Cyril Collard, le réalisateur. C'était donc son tout premier rôle et d'une certaine manière, ça a lancé sa carrière.
Après, je vais faire avec l'équipe de Cyril Collard un court-métrage pour le musée d'Orsay avec une chorégraphie d'Angelin Prel-Jocage sur les raboteurs de planchers de Caillebotte. Je vais faire un film de Jean-Claude Biette qui s'appelle Le Champignon des Carpates, qui est un film culte d'auteur. Et puis après, c'est lancé, quoi. Voilà, la machine est lancée.
Ça ressemblait à quoi, ce tournage ?
C'était tout nouveau pour moi. Cyril était très exigeant, mais c'était merveilleux, quoi, parce que Cyril, c'était un type fabuleux. On aurait gravé l'Himalaya avec lui. On aurait tout fait pour lui. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que juste avant de le tourner, j'ai eu une histoire où je ratais tous mes trains, peut-être à cause de ma vie de patachon, mais plusieurs fois. Et donc j'avais appelé Graziella en lui disant « c'est vraiment moi, je travaille le rôle, quoi, parce que... » Ben oui, c'était joli, parce que c'était une chanson sur le destin, sur l'amour auquel on croit à cette époque. On croit qu'il va durer toujours, on croit que quand on rencontre une personne, c'est la personne, qu'il n'y aura rien d'autre. Et donc ça parle de ce qu'on espère et de l'amour, c'est pas mal.
On espère toujours que l'amour qu'on trouve soit l'amour pour toujours.
Oui, mais c'est bien aussi de savoir que le monde est grand, non ? Et que si on se casse la figure une fois, ça veut pas dire que c'est la fin.
Je repense à ce garçon, si brun qui me souriait. Je perdrai ta trace. À quoi servent, dis-moi, les trains qui partent et qui mènent au destin, puisque c'est sans moi.
Vous, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, le grand amour ?
Non, je crois que je l'ai rencontré une fois, mais c'est la bonne.
L'homme avec qui vous vivez aujourd'hui ?
Oui.
Compositeur.
Et voilà, et je retourne dans la musique.
Pascal Dussapin, compositeur de musique contemporaine.
Voilà, absolument.
Que vous avez rencontré il y a longtemps ?
Il y a presque 18 ans.
Est-ce que vous diriez que cette chanson, elle a bouleversé le cours de votre vie ?
Ah ben oui, Graziella et Cyril ont été vraiment déterminants avec moi, ouais. Puis c'est vrai que il y a un déroulé dramatique dans cette chanson, qu'elle est belle et elle a des jolies harmoniques. C'est une chanson qui a pas tellement vieilli, je trouve.
Cathy prend le train, Graziella de Michel. C'était donc Frédéric, le choix de Florence Darel.
Florence Darel à l'affiche du théâtre de Passy à Paris dans la pièce Drôle de justice de Jean-Marie Roire.
Merci Frédéric et à demain à suivre le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.